Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Comment le départ progressif des banques occidentales d'Afrique subsaharienne peut-il accélérer l'expansion des banques marocaines sur le continent? C'est la principale question que nous nous posons aujourd'hui dans cette émission. Notre analyste Idriss Lindje, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin, y répondra, vous l'entendrez, au cours de cette émission. Il est notre invité. Et dans la destination éco, nous irons en Côte d'Ivoire où l'on réfléchit sur le financement de la stratégie nationale de développement de la filière rizicole. Cette initiative vise à informer les partenaires techniques et financiers du pays sur les actions à mener afin de rendre la filière plus compétitive. Vous entendrez la correspondance d'Hippolyte Dié depuis Abidjan. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mais avant cela, voyons ensemble l'essentiel de ce qui a fait l'actualité économique de la semaine. Et cela nous mène à Rabat. Rabat, où plusieurs accords de financement ont été signés mercredi dernier entre le Maroc et la Banque africaine de développement. Des accords d'une enveloppe de plus de 600 millions d'euros, soit plus de 6,4 milliards de dirhams. Je vous propose d'écouter Ashraf Tarsim. Il est le responsable pays de la Banque africaine de développement. Au Maroc, il nous détaille ces accords signés, donc je le rappelle, mercredi dernier.
Les projets que nous avons signés aujourd'hui sont des projets complémentaires. Un projet lié à la transformation de l'université marocaine pour qu'elle puisse être plus entrepreneuriale, plus digitale et plus inclusive. Un projet relatif au renforcement de la compétitivité des territoires marocains pour attirer davantage d'investisseurs et créer de nouvelles opportunités économiques. Un troisième projet qui vient compléter cette offre au niveau des compétences, cette offre au niveau des politiques incitatives avec une meilleure connectivité pour lier le nouveau port Nador Westmed au réseau autoroutier du Maroc pour que les investisseurs qui s'installent puissent bénéficier de cette offre complémentaire et accroître leur compétitivité.
Coémergence, l'invité.
Et nous avons le plaisir de retrouver notre analyste Idriss Lindje, que nous recevons presque chaque mois pour nous décrypter l'évolution de l'actualité économique. Et ce qui a fait l'actualité ces dernières semaines, c'est ces départs progressifs des banques occidentales des pays d'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas une première, on l'avait observé il y a de cela quelques décennies, et cela avait facilité l'implantation des banques marocaines, notamment en Afrique de l'Ouest. On a l'impression que c'est le même phénomène qui se produit et on se pose la question en quoi cela peut être encore utile à ces banques marocaines pour poursuivre leur expansion à travers le continent. Pour en parler donc, j'ai le plaisir de recevoir Idriss Lindje. Bonjour à vous Idriss Lindje. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin.
Bonjour Oumar Baldé et bonjour aux auditeurs du Média Radio.
Alors, un plaisir de vous retrouver, comme je le disais à l'instant. Alors, Idriss Lindje, nous allons parler d'un sujet brûlant, hein, il faut le dire, et qui refait surface ces dernières semaines. C'est ce mouvement constaté de départ des banques étrangères, hein, multinationales étrangères, de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Les annonces de retrait s'enchaînent. Alors, Idriss Lindje, ce n'est pas la première fois que l'on observe cela. Cela a été le cas il y a de cela des décennies et cela avait surtout permis aux banques marocaines de s'implanter sur le continent. Mais expliquez-nous encore, d'abord Idriss Lindje, qu'est-ce qui explique ces retraits de banques étrangères du continent?
Bon, je pense que ces banques observent une logique qui est simple. Essayer d'avoir le maximum de rendement avec le minimum de risques. Ce sont les logiques d'entreprise. Or, effectivement, comme tu le dis, on a constaté depuis pratiquement une vingtaine d'années que la notion de rendement maximal pour risque minimum est en train de reculer. Et du coup, plusieurs banques ont commencé à partir. D'ailleurs, hein, des banques comme Société Générale ont beaucoup résisté parce que, effectivement, bien avant elles, plusieurs banques sont parties du continent. Donc aujourd'hui, il y a ce besoin d'avoir de la rentabilité. Mmh. Société Générale a expliqué que c'est parce qu'elle voulait sortir des marchés où elle n'est pas première, ce qui est vrai, au Maroc, qui était sa première filiale en Afrique. Société Générale n'était que quatrième ou cinquième derrière les grands groupes marocains. Après, bien sûr, il y a aussi la pression forte hein, des groupes bancaires africains, mais surtout des questions de conformité, parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de lutter contre le blanchiment des capitaux et toutes ces choses. Et ça demande des coûts de conformité énormes. Les banques estiment que ça ne sert à rien d'investir sur un continent où le business ne grossit pas, mais où il faut faire davantage de dépenses. Mmh. C'est leur logique. Et bien sûr, ça profite aux banques panafricaines qui se positionnent.
Mmh. Alors, est-ce que ces départs aussi, hein, on parle là de ces banques panafricaines, mais est-ce que ces départs est synonyme peut-être de manque d'attrait du continent et ce sont les banques seulement qui s'en aillent ou bien elles partent avec les investisseurs?
Bon, alors, ce qu'il faut dire, hein, c'est qu'il n'y a pas un manque d'attrait du continent parce que les banques, elles partent pour des problèmes de conformité. Elles partent pour des questions de rentabilité. Mais à côté, on note effectivement qu'il y a des fonds d'investissement qui, eux, viennent sur le continent. Hein. Vous avez vu, par exemple, on a un fonds d'investissement comme Eras BV, qui est une joint venture entre l'organisme néerlandais de financement du développement et je crois aussi le fonds suédois, qui ont pris des participations dans des banques majeures au Kenya, qui ont pris une participation dans une grande banque panafricaine qu'on appelle Ecobank, qui est présente dans 33 pays. Donc, les investisseurs banques institutionnelles partent, mais on note que des fonds d'investissement prennent la place. Et d'ailleurs, on a noté qu'il y a une espèce de montée des fonds d'investissement dans le capital des banques cotées, parce que les fonds d'investissement n'ont pas les mêmes problèmes en termes d'exigence de fonds propres. Elles peuvent faire du placement tout juste en observant les règles de placement. Mmh. Donc, ce n'est pas vraiment le départ des investisseurs étrangers. Et puis, il y a des segments de la banque sur lesquels les banques africaines ne sont pas encore complètement efficaces. C'est le segment des devises. Hein. Vous savez, quand vous faites le paiement international, il faut qu'une banque ait suffisamment de devises sur le marché d'échange afin de pouvoir satisfaire les clients. Très peu de banques africaines ont atteint ce niveau. Donc, elles ont toujours besoin des banques internationales. Et enfin, pour l'investissement, les acteurs majeurs du financement de l'investissement en Afrique restent des grands groupes bancaires étrangers comme Citi, JP Morgan et un ensemble d'autres acteurs.
Mmh. Alors, cela dit, ces grands acteurs maintenant sur le continent, parlons des banques panafricaines, comment se portent-elles et peuvent-elles surtout prendre le relais de ces banques multinationales étrangères qui s'en aillent?
C'est une excellente question parce que la question de la sortie et de qui donner les banques quand on est sorti reste très importante. À un moment donné, comme tu l'as dit, les banques marocaines ont massivement repris des banques laissées par des groupes étrangers, notamment en Afrique francophone subsaharienne. Mais aujourd'hui, il est clair que ces grands groupes marocains, notamment les Big Three marocaines, Bank of Africa, Activity Wafa ou encore Banque Centrale Populaire, il est clair qu'elles ne peuvent plus mener une expansion massive si elles n'ont pas un appui supplémentaire. Parce que ce qu'il faut noter, hein, c'est que la capacité d'une entité à pouvoir mener de l'expansion, c'est si elle a suffisamment de fonds propres. Or, quand on regarde le ratio de levier qui mesure le poids total des actifs d'une entreprise sur les capitaux propres de l'entreprise, on note qu'on est autour de 11,4% par exemple pour Atijari Wafa et on est sur une moyenne de 13 fois pour BCP et Bank of Africa. Donc, dans ces conditions, ça veut dire que ces entreprises ont un actif, ont un bilan qui est constitué d'une part importante de dettes et elles n'ont pas dans la capacité le levier nécessaire pour mener une nouvelle expansion. Cela dit, aller en Afrique a été très rentable pour ces banques. Elles ont réalisé de grosses marges de rentabilité, mais cette rentabilité a toujours été faite avec un rappel. Bah, vous courez le risque d'avoir des défis parce que les secteurs bancaires africains ne sont pas matures, ils ne sont pas toujours bien régulés, le niveau des risques est élevé, ce genre de choses. Donc, Donc, je pense que les grands groupes bancaires panafricains pourront, mais ils auront une limite parce qu'il faut mobiliser jusqu'à 1,5 milliard de dollars. C'est une somme énorme pour investir sur les banques qui sont en train de partir. Et de mon point de vue, très, très, très peu de banques peuvent mobiliser ces capitaux-là en Afrique sans aucune aide extérieure.
Alors, vous avez en partie répondu à ma dernière question. C'était quel rôle justement pour ces banques du Maroc et pour le Maroc de façon générale, qui, je le rappelle, avec l'Afrique du Sud, l'Égypte, entre autres pays, forment les principaux États, disons, africains sur le secteur de la banque. Alors, quel rôle donc dans ce secteur bancaire pour le Maroc?
Je pense que les banques marocaines peuvent toujours jouer un rôle important, mais il faudra qu'il y ait plus qu'une dose de volonté politique de la part de ceux qui soutiennent ces banques-là, notamment le gouvernement marocain. Il faudra que le gouvernement puisse, avec la Banque centrale du Maroc, libérer les capitaux nécessaires et libérer ces capitaux de manière de long terme, parce que le problème, il est là. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que les banques marocaines, par leurs propres ressources actuelles, mènent une nouvelle expansion. D'ailleurs, tu as pu remarquer, lorsque des banques françaises ont voulu quitter le Maroc, comme Crédit du Maroc ou encore Société Générale Maroc, ce n'est pas forcément les big three qui ont investi là-dedans. Par exemple, dans le cas de Société Générale Maroc, on a vu que c'est le patron de Saham qui est venu investir parce que le patron de Saham, il a une grosse cagnotte qu'il a eue après avoir vendu ses filiales en Afrique, dont il a mobilisé une grosse cagnotte et il avait de quoi payer et de quoi revenir sur ce marché. Je ne suis pas sûr que tout le monde avait ce matelas financier. Maintenant, l'autre chose qu'on peut observer, c'est que les Émiratis, par exemple, depuis une année, ont décidé qu'ils vont investir en Afrique. Donc, ils peuvent justement passer par des pays comme le Maroc, parce que les Émiratis connaissent bien les Marocains, pour investir sur des banques africaines. Et de l'autre côté, on a les Chinois qui s'intéressent à l'Afrique, mais ne peuvent pas investir souvent directement parce que c'est très compliqué pour eux. Mais ils ont une grosse présence dans le capital de Standard Bank, qui est la plus grosse banque en Afrique aujourd'hui, qui est une banque sud-africaine. Ils détiennent 20%. Ils peuvent donc passer par Standard Bank pour continuer d'acquérir de nouvelles banques en Afrique. Mais bon, c'est une dynamique intéressante à suivre. Je pense que le Maroc pourra essayer, mais ce n'est pas très facile parce qu'il faut mobiliser des sous. Il faut que ces sous-là soient rentabilisés. Et pour le moment, je pense que l'attitude des big three marocaines est d'être prudent, déjà de rentabiliser ce qu'elles ont pu acquérir jusqu'au bout. Et peut-être après, on pourra mener une nouvelle phase d'expansion avec des capitaux fraîchement levés, peut-être cette fois avec l'appui des Émirats du Golfe qui ont un matelas financier illimité.
En tout cas, cette coopération justement à destination de l'Afrique entre le Maroc et ces pays du Golfe que vous évoquez a été largement donc prévue dans ces accords qui ont lié le Maroc et les Émirats arabes unis. Merci à vous, Idriss Lindjé. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin. Ce fut un plaisir de vous avoir encore une fois dans Coémergence.
C'est un plaisir. Au revoir, Mabaldi. Au revoir, tes auditeurs.
Au revoir.
Zoom Express.
Oui, avec Moustapha El Bouri, nous parlons aujourd'hui des opportunités de business entre membres donc de la diaspora africaine, cela suite à la création d'une nouvelle plateforme de mise en relation, de promotion des affaires et de promotion donc des affaires entre membres de cette diaspora africaine. Bonjour à vous, Mustapha El Bouri, et merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Bonjour Omar.
Alors,
merci à vous de m'avoir invité.
Merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, Best Afrique, c'est une plateforme destinée à encourager les relations d'affaires entre business et business, donc entre membres de la diaspora africaine. Parlez-nous de cette plateforme, Mustapha El Bouri.
Oui, voilà. Donc, comme vous l'avez bien précisé, Omar, Best Afrique, c'est une société de consulting qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, qui est basée à Dakar, au Sénégal, et qui est également spécialisée dans ce qui est implantation sur notre continent, donc sur l'Afrique. Donc, étant également issu de la diaspora, depuis quelques années, bon, j'essayais déjà de par moi-même de rentrer en relation avec différentes personnes de la diaspora. Et je me suis rendu compte, en fait, donc j'ai fait une étude assez détaillée, et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait certaines petites entités qui avaient été créées par certaines communautés. Mais chaque communauté avait fait, en langage familier, sa petite sauce. Je vais vous donner un exemple. On va en France, par exemple, on a l'association des Marocains du monde, on a l'association des Sénégalais, on a l'association des Camerounais. Et je me suis dit, pourquoi voir ça en tant que communauté et non pas globalement en tant que continent ? Donc l'idée, j'avais eu l'idée de créer donc cette plateforme il y a de cela un peu plus de 2 ans maintenant. Donc c'est vraiment un peu plus de 2 ans sur laquelle on est en train de travailler. On a créé une entité professionnelle digitale qui ne se limite pas en fait qu'à la diaspora, parce que je me suis dit que la diaspora, oui, on est là pour faire créer une relation de travail ensemble, mais il y a aussi toute la partie, bien sûr, qui habite aussi en Afrique, ça vient nous autres Africains. Mmh. Donc moi maintenant je suis sur le continent. Mmh. Et il y a la troisième partie aussi, c'est aussi la diaspora qui habite en Afrique. Un exemple, voilà, un Français qui habite au Maroc, un Anglais qui est au Ghana, ces personnes-là aussi, je pense qu'il faut aussi les inclure, parce que c'est des personnes qui font partie du climat des affaires. Donc il y a 3 catégories.
Mmh. Trois catégories, si je résume. Donc, il y a la diaspora africaine à l'étranger, et il y a cette diaspora africaine en Afrique, mais aussi les étrangers en Afrique.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Alors,
je pense que chaque catégorie a son rôle à jouer.
Oui, effectivement. Alors, on va y aller point par point. Alors, quels sont les objectifs précis de cette plateforme, Mustapha El Bouri?
Bah déjà, dans un premier temps, c'est déjà de recenser ces communautés-là. Au jour d'aujourd'hui, encore une fois, après avoir fait une étude assez détaillée, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune plateforme qui existe et qui recense cette communauté-là. On parle de, pour prendre comme exemple donc la diaspora africaine, on parle d'une communauté qui pèse environ 300 millions de personnes sur 3 générations, donc c'est énorme, c'est très vaste. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de, on ne connaît pas on n'a pas accès à cette communauté-là. Voilà. Donc, pour pouvoir déjà communiquer avec elle, il faut déjà dans un premier temps la recenser. Donc, il y a un travail bien sûr qui nous attend aussi, qui est assez important de recensement. Mais bon, j'ai déjà durant les 2 années de développement, j'ai commencé aussi bien entendu à voir comment alimenter cette plateforme, différents réseaux, que ce soit les consulats, que ce soit les associations de différentes communautés, que ce soit les ambassadeurs dans chaque pays. Il faut déjà, le but c'est vraiment de recenser cette communauté-là pour pouvoir, après, comme vous l'avez bien précisé Omar, une fois qu'on a recensé cette communauté, au moins une partie, parce que 300 millions bien entendu c'est beaucoup, une fois qu'on l'a recensé, de pouvoir déjà créer des relations de travail, parce que dans la plateforme en fait, il y a une partie inscription où on va savoir la personne où elle habite, son pays d'origine, son activité, et savoir ce qu'elle fait. Donc après, on peut, imaginez demain, on a quelques millions de personnes. Une personne, par exemple, qui est au Maroc, qui est dans le domaine du multimédia, par exemple, peut filtrer dans cette communauté-là toutes les personnes qui sont dans le domaine du multimédia, qui habitent dans les différents pays, et même en Afrique, bien entendu, et créer peut-être eux-mêmes, entre eux aussi, une discussion déjà. Voilà.
Excellent.
Ça va faciliter énormément les choses.
Merci à vous, Mustapha El Bourri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique, spécialisé dans les implantations et les investissements à travers le continent. Et vous nous parliez de cette nouvelle plateforme destinée à encourager les relations d'affaires, le business et le co-investissement entre diaspora africaine à l'étranger et la diaspora étrangère en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mustapha El Bourri.
Merci à vous.
Destination Éco.
Et dans la Destination Éco, nous allons en Côte d'Ivoire où l'on réfléchit sur le financement de la stratégie nationale de développement de la filière rizicole. Cette initiative vise à informer les partenaires techniques et financiers sur les actions à mener pour rendre la filière plus compétitive. Écoutons la correspondance d'Hippolyte Dier depuis Abidjan.
En Côte d'Ivoire, le riz est le deuxième produit le plus importé après le poisson. Alors que le pays dispose d'un grand potentiel de production, pour mettre fin à cette situation et lui permettre de répondre aux besoins sur le plan national et même d'en exporter, il était important qu'un diagnostic cohérent soit effectué. Les différentes réflexions menées dans ce sens ont permis la mise en place de la stratégie nationale de développement de la filière riz. Une table ronde a été initiée à Abidjan pour faciliter le financement de cette initiative. Kobenin Kwasi Adjoumani, ministre ivoirien de l'Agriculture.
La disponibilité de ressources financières est une des conditions sine qua non pour le développement de la filière riz, notamment pour la réalisation des investissements lourds tels que les aménagements hydro-agricoles, l'irrigation.
La SNDR2 part de 2024 et ce jusqu'en 2030 et elle permettra de basculer d'une riziculture traditionnelle de substances non rentables à une riziculture de marché compétitive, durable et respectueuse de l'environnement. Pour le vice-président de la Banque mondiale, Région Afrique, il faut féliciter le gouvernement ivoirien pour la tenue de cette table ronde. Ousmane Diagana.
Je voudrais vous assurer que la mobilisation de financements publics et privés pour la réalisation d'objectifs clairs dans un cadre de gouvernance performant sera notre feuille de route commune. Je peux vous assurer de notre soutien à la vision et aux priorités du gouvernement en matière de sécurité alimentaire.
La production du riz en Côte d'Ivoire est passée de 550 000 tonnes en 2011 à plus d'un million de tonnes en 2023. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé précise que cette nouvelle stratégie viendra booster davantage le niveau de production.
Le potentiel de production de la Côte d'Ivoire est estimé actuellement à environ 3 millions de tonnes de riz blanchi pour une consommation d'environ 2,4 millions de tonnes. C'est dire que nous pouvons être autosuffisants rapidement.
Les besoins de la Côte d'Ivoire sont évalués à 798,434 milliards de francs CFA pour la réussite de la seconde stratégie nationale de développement de la filière riz. À Abidjan, Hippolyte Dier pour Medi 1.
Merci à vous, Hippolyte Dier, correspondant de Medi 1 à Abidjan. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.